Gauthier.
Quelle belle journée aujourd'hui on a sur Québec, c'est ensoleillé, maximum de 19 pour ce qui est d'aujourd'hui. Ce soir, quelques nuages, minimum de plus 4 degrés. Demain, mercredi, un peu de nuages, peut-être un peu de pluie intermittente en après-midi avec des rafales à 40 km/h, maximum de 9. Jeudi, pluie intermittente, maximum de 12. Et j'ai une bonne nouvelle pour la gang. Vendredi, ensoleillé, maximum de 15. Samedi, ensoleillé, maximum de 17. Et dimanche, ce serait une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 15 degrés. En soirée, peut-être un peu de pluie dimanche, mais à partir de vendredi, on partirait, selon Environnement Canada, pour 3 beaux jours de soleil. Mon invité, vous l'aimez bien, il est avec nous à chaque semaine, c'est Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Salut Nick!
Salut, ça va bien tout le monde?
Ouais, oui, mon grand voyageur en direct de Calgary, qu'est-ce que tu es allé faire là?
Oui, ben, quand j'en ai parlé la semaine dernière, en fait, nous, à la Fédération canadienne des contribuables, à chaque année, on tient notre petit gala qu'on appelle la remise des prix Teddy. Ça fait au-dessus de 25 ans qu'on fait ça. Grosso modo, on célèbre les pires gaspillages gouvernementaux devant le public. C'est un événement qu'on fait là, devant nos autant des donateurs que des supporters qui sont surtout basés à Calgary ou à Saskatchewan puis qui font la route comme nous pour cet événement-là. Donc, on va faire la remise des prix ce soir. On va relâcher un communiqué de presse demain. Puis dans le fond, juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, c'est qu'on a plusieurs catégories où est-ce qu'on remet des prix selon les pires types d'accomplissement en termes de gaspillage. On a notamment au fédéral, on a plusieurs nominations. On a entre autres Kathleen Tate, la présidente directrice générale de Radio-Canada. On a M. Justin Trudeau, on a la gouverneure générale. Donc, on a plusieurs exemples, soit par rapport à leurs dépenses, comme vous avez entendu parler au courant de l'année. On a aussi des remises de prix au provincial. Je dirais qu'on a plusieurs surprises aussi pour le Québec. Je vous dirais pas si le Québec fait partie des lauréats, mais on a entre autres, parmi les nominations, notre cher ministre des Finances, Éric Girard. Entre autres, là, je vous dirais par rapport à sa fameuse dépense de 7 millions de dollars pour aller attirer une équipe de hockey, ne serait-ce que pour jouer 2 matchs de pré-saison en octobre prochain. Donc, c'est le genre de choses qu'on célèbre. Il y a également municipal et finalement, comme c'était pas assez, on remet également un Lifetime Achievement Award. Donc, vraiment comme si on consacrait en fait une organisation ou une personne à recevoir un prix qui est dont on va se souvenir pour dans les annales de l'histoire pour avoir obtenu un tel prix. Donc, je dirais pas c'est qui reçoit cette année, mais l'année dernière, c'est Revenu Canada qui l'avait reçu pour avoir dépensé énormément d'argent. On parle de milliards, ou sinon plutôt en centaines de millions en PCU qui ont fini dans les poches de gens qui n'auraient pas dû la recevoir. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on célèbre. C'est sûr que ça semble un petit peu être pessimiste, voire c'est comme si on jouait avec le feu parce qu'on parle effectivement de dépenses qui sont pas nécessairement intéressantes. On n'est pas très heureux de dire qu'il y a eu du gaspillage d'argent des contribuables, mais la meilleure manière de montrer aux politiciens et aux fonctionnaires à quel point on trouve que c'est inacceptable, c'est un peu d'en rire et aussi de les exposer devant le public. Fait que c'est un peu ça qu'on va faire. Puis à chacun des prix, ben nous, les prix, c'est, vous savez, il y a les Golden Globes, il y a les Oscars, et dans ce cas-ci, ben, on a les cochons d'or, c'est ce qu'on remet en termes de prix aux différentes personnalités qui remportent. Les Teddy's, bien sûr, je pense pas que Justin Trudeau va venir chercher son prix ce soir s'il gagne, mais ça va être intéressant. J'ai hâte de vous dévoiler les lauréats dès que possible.
Puis là, vous êtes combien dans ce type de rassemblement-là, Nicolas?
On va être au-dessus de 150 personnes en présentiel, vraiment, de personnes qui ont vraiment dit on va être là parce que ça se trouve qu'on le fait en Alberta pour une deuxième année d'affilée. On l'a déjà fait en Saskatchewan, puis je pousse pour qu'on le fasse au Québec parce que ça serait intéressant de le faire dans la belle province éventuellement. Ça serait une autre atmosphère, puis ça serait également devant public. Mais on a fait une présentation devant public pour la première fois l'année dernière. Donc, c'est quelque chose qu'on ramène tranquillement au goût du jour. Puis oui, il va y avoir tout également l'organisation de la fédération, tous les directeurs qui sont là. Donc, c'est comme un get-together assez important pour nous, mais en même temps, c'est un événement qu'on aime aussi partager avec le reste des Canadiens parce que, ça les concerne. Puis c'est un peu un survol de tout le travail qu'on a fait dans la dernière année.
Ouais, mais on va être à l'affût de ça. Il va y avoir un communiqué de presse qui va être émis demain matin, puis on en parlera avec nos auditeurs demain midi. Ce qui est surprenant quand on regarde les dépenses, c'est que le montant des dépenses a changé. Moi, je me souviens des scandales qu'il y avait à Ottawa quand on a appris que Bevoda avait fait une dépense de 20 $ pour un jus d'orange. Je pense qu'on reviendrait à ce temps-là, au fameux 20 $ pour un jus d'orange.
Ah oh ouais, on s'ennuie vraiment de cette époque-là. T'sais, je veux dire, le plus petit scandale qu'on a peut-être trouvé à Justin Trudeau en termes de dépenses au cours des dernières années, c'est 6 000 $ par nuit pour une chambre d'hôtel durant les funérailles de la reine d'Angleterre. Ça, c'est, on se souvient, là, on se demandait qui avait dormi dans cette fameuse chambre luxueuse, puis on a fait des demandes d'accès à l'information pour finalement pouvoir exposer en fait Justin Trudeau pour cette dépense complètement ridicule. Mais on se dit, bon, 6 000 $ par nuit, c'est pas loin de 30 000 $ pour une suite d'hôtel. Si on compare ça avec un jus d'orange, c'est sûr qu'on est à des années de lumière. Mais ça démontre effectivement à quel point la culture à Ottawa a vraiment changé au cours des dernières années. Et malheureusement, ça a une influence sur la culture dans les autres, dans les provinces également, parce que ce qu'on voyait auparavant en termes de dépenses de la part des différents gouvernements, autant municipal qu'au provincial, c'était toujours condamnable, mais ça a effectivement explosé au cours des dernières années. On a quand même quelques exemples au niveau municipal par rapport, entre autres, à Valérie Plante, entre autres, par rapport à l'Office de consultation publique de Montréal, où est-ce qu'on a vu des dépenses complètement ridicules qui dépassaient, encore une fois, le fameux verre de jus d'orange, donc des écouteurs à 900 $ qui avaient été achetés par l'ancienne directrice, entre autres. Donc, on se dit, OK, il y a vraiment un manque de retenue. Et c'est ce genre d'événement-là qui nous permet un peu d'exposer ça, d'en rire, mais aussi, je n'irais pas jusqu'à dire les humilier, mais je pense que la meilleure manière de forcer les politiciens à changer de ton, à changer aussi d'attitude, c'est de comprendre que les gens se moquent en fait de leur dérive, et mais aussi leur en veulent un peu d'une certaine manière pour le fait que c'est des dérives avec leur argent. C'est quand même l'argent des contribuables au final qui est utilisé pour tout ce gaspillage-là. Donc un jus d'orange, c'est sûr qu'on aurait pu le dénoncer à l'époque, puis si je me souviens bien, on l'avait fait. Mais d'autre côté, tout ce qui a dépassé la facture du fameux jus d'orange de Bévaudan, on l'a également dénoncé. Et depuis ce temps-là, on dirait que c'est exponentiel, mais éventuellement, on va reprendre le contrôle des finances publiques de ce pays-là, mais je peux pas dire que c'est fait pour demain, mais on va continuer à se battre pour que ça arrive.
C'est comme si l'argent des contribuables ne voulait plus rien dire. Les politiciens sont là, essaient de faire passer leurs idées, peu importe le coût que ça va coûter, même si c'est plus cher qu'escompté, ben, il n'y aura pas personne qui va perdre la face avec ça. Aux prochaines élections, ben, le public décidera, les électeurs décideront s'ils nous laissent au pouvoir ou pas, mais on dirait qu'il n'y a pas d'impact direct à une dépense, qu'il n'y a pas de maudit bon sens. Puis des fois, c'est fâchant. Au Québec, on a souvent l'impression qu'on est la vache à lait de nos politiciens. Quand les politiciens dépensent notre argent à qui mieux mieux, puis il en manque, ben leur façon de faire, c'est de nous en demander constamment plus. J'ai l'impression que, tu sais, on parle souvent de paradis fiscaux, Nick, puis il y a un gars à qui tu parles une fois de temps en temps qui s'appelle Jeff, qui fait de la radio sur Internet, qui dit s'il y a des paradis fiscaux, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux et le Canada est en train de devenir un enfer fiscal. C'est rendu tellement, tellement, tellement désolant de voir à quel point les politiciens prennent notre argent sans gêne, la dépensent pour leur patente à eux, et si ça fonctionne pas, c'est pas plus grave que ça, on repartira un autre projet qui va coûter encore des millions ou sinon des milliards, et c'est la vie. Mais de se voir constamment comme ça, comme une vache à lait, ça va avoir un impact sur la société, Nick, parce qu'il y a des gens qui ont les moyens de quitter le Québec, des gens qui sont bilingues, des gens qui ont de bons montants d'argent pour quitter, vont tout simplement aller dans des endroits où la vie va peut-être être un peu plus facile pour eux, puis où on va reconnaître que ceux qui travaillent plus fort, ben, doivent avoir peut-être un peu plus d'argent dans leur poche, là.
Absolument. Puis, tu sais, on l'a vu avec les dernières annonces au budget du gouvernement fédéral, puis avec ce qui a suivi au provincial, avec par exemple l'augmentation de la taxe, de l'impôt sur le gain de capital, entre autres. Tu sais, je veux dire, on s'entend pour dire que cette mesure-là vise un certain groupe d'individus. On parle pas de la majorité de la population comme telle, mais il en reste que ce sont des mesures qu'on ajoute quand même constamment pour presser un peu le citron. Tout ça pour. Pas sur un point de vue d'équité, parce que c'est toujours comme ça qu'on va nous présenter la notion d'une augmentation d'impôts, d'une augmentation de taxes. Avec l'augmentation du gain de capital au fédéral, on disait, ben, c'est pas une question d'équité parce qu'il faut qu'on fasse payer les riches, puis les plus nantis pour aider les autres. Mais la réalité, c'est que le gouvernement fédéral, ça va chercher 7 milliards de dollars dans les poches des gens, des entreprises comme des mieux nantis ou sinon des gens qui préparaient leur retraite en investissant dans un duplex, un triplex et autres, en espérant qu'une fois qu'il va avoir un certain gain de valeur, ils vont pouvoir vendre cet immobilier-là et pouvoir être en mesure d'avoir une retraite qui a du bon sens, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas dépendre des chèques du gouvernement pour ce faire. Mais le monde pense que ce 7 milliards-là, c'est une question d'équité. Mais quand on regarde ce que le gouvernement fédéral fait avec ses dépenses, il augmente de 38 milliards de dollars ses dépenses. Le 7 milliards qu'il va chercher en imposition sur le gain de capital, disparaît en dedans de 2 mois en dépenses gouvernementales supplémentaires. Puis, c'est pas juste au fédéral, comme je disais, qu'on voit ça, quoi qu'on voit très bien à quel point le fédéral a un impact sur les politiques au provincial et à d'autres niveaux. Là où je pourrais nous emmener, d'ailleurs, c'est avec les récentes annonces par rapport à la Ville de Québec, avec M. Marchand qui décide d'ajouter une taxe provisoire de 10 $ sur les immatriculations. Encore une fois, sous le couvert que, ben, il faut faire payer les automobilistes parce que c'est une question, dirait-on, d'équité, de soutenir les infrastructures de transport en commun. Sauf que, bien sûr, ce qu'il oublie de nous dire, c'est que, bon, tout ça est pour couvrir un déficit de 30 millions de dollars qui s'accumule depuis plusieurs années, qui vient d'être épongé par le provincial, mais là, la capitale nationale est obligée de se trouver une nouvelle piste de solution pour être en mesure d'aller chercher des revenus autrement, ou sinon, devrait essayer de réduire ses dépenses ailleurs pour faire des économies d'échelle, mais on décide plutôt de faire passer ce 10 $-là sur le dos des automobilistes. On n'essaie pas de faire du ménage dans les dépenses, on n'essaie pas de peut-être revoir l'ensemble du modèle de transport en commun dans la ville de Québec et dans la capitale nationale. Et en plus de ça, comme c'est pas assez, on dit bah, c'est pour combler le déficit, 10 $ par personne. Et en plus, comme c'était pas assez, ça risque d'être plus que ça parce qu'on sait qu'il va y avoir une autre date butoir le 15 septembre prochain. Où est-ce que M. Marchand et la SAAQ vont s'entendre sur un nouveau prix? Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'au courant des prochaines années, le fameux RTC qui est déficitaire va mettre des centaines, voire des milliers de nouvelles bandes de vélos supplémentaires, puis va continuer à dépenser et à dépenser pour d'autres pistes cyclables et autres. J'adore le vélo. Je pense que c'est une bonne manière de se garder en forme. Mais quand tu as un réseau de transport qui est déficitaire, fais-moi pas croire que c'est à cause que c'est une question d'équité d'aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables, surtout des automobilistes qui se font déjà presser le citron, comme on le sait, avec le prix de l'essence et toutes les taxes qu'il y a dessus. Et là, on leur refile une taxe supplémentaire en disant ben, c'est pour le transport en commun, c'est pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. Si tu veux vraiment faire un transport en commun pour tout le monde, réduis tes dépenses. Arrête d'engager plus de fonctionnaires comme il faut, de maintenir en vie, si on peut dire ça de même, certains fonctionnaires. Comme on l'a vu avec le bureau de projet du tramway de Québec, où est-ce qu'on met des millions de dollars pour garder des gens inactifs, ou qu'on investit des millions de dollars pour des projets que les gens n'ont pas de besoin, puis on va justifier des taxes supplémentaires sous le couvert que c'est normal, c'est l'équité, c'est le transport en commun, tout le monde doit contribuer. C'est une mentalité où est-ce qu'on se dit, bon, on va taxer davantage et davantage, toujours sous le couvert de l'équité, jamais sous le couvert que peut-être que la notion réelle d'équité, c'est de s'assurer de ne pas laisser des dettes aux générations futures, c'est pas de laisser non plus des finances publiques déficitaires et c'est pas non plus leur laisser un cadre fiscal ou réglementaire qui a jamais été aussi imposant comme on le voit présentement.
Et c'est de voir, Nick, que tu sais, actuellement, il y a des audits de performance qui sont réalisés au RTC pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on donne au RTC. Et on n'a même pas encore la réponse de ces audits de performance-là. Et ce que Marchand fait, c'est qu'il rencontre Geneviève Guilbeault en disant bon, on a besoin de plus d'argent encore. Et de l'autre côté, pouf, on va faire une petite taxe provisoire de 10 $. Et comme tu le dis, pour l'instant, c'est 10 $. Mais dans un avenir rapproché, ils vont nous augmenter ça encore avant même de savoir est-ce que le RTC est performant, oui ou non, avec l'argent qu'on donne. Il y avait un article, je pense que c'est sur Radio-Canada, qui mentionnait qu'à Québec, on a plus de chefs que d'Indiens par rapport au reste des réseaux de transport à la grandeur du Canada. Donc, on est autour de 25% là, à ce qu'on m'a expliqué. Puis pour les autres, c'est autour de 17, 18, 19%. Donc, il y a peut-être des endroits où on peut couper avant de commencer à charger encore à l'automobiliste, mais en même temps, c'est une chasse à l'automobiliste. On ne veut plus voir les automobilistes au centre-ville. On veut les obliger à rentrer à l'intérieur du réseau de transport en commun. On veut les foutre des autobus. Le problème étant que malgré toutes les dizaines de millions qu'on ajoute année après année pour ce qui est du RTC, le chiffre de fréquentation n'augmente pratiquement pas. Il est toujours entre 7 et 8%. T'sais, Québec n'est pas fait comme Montréal. Montréal, si tu as une voiture, c'est peut-être quelque chose de trop que tu as parce que tu es capable de te promener assez facilement sur l'île puis d'avoir accès aux services assez facilement. Mais en région, parce qu'on habite dans une région, la capitale nationale, c'est une grande région, c'est assez étalé, ben on a besoin d'un véhicule et on dirait que les politiciens, même s'ils sont constamment dans leur char, Nick, même s'ils sont constamment dans leur voiture, ils se disent « Non, non, le futur, c'est le transport en commun. » On a vu, regardant en France, là, comment ça se passe. Oui, mais le climat n'est pas pareil ici qu'en France. La façon dont on a aménagé la grande région de Québec, ça n'a rien à voir avec Paris. Là. Ça n'a rien à voir avec Paris. C'est, en fin de semaine, Tu sais, en fin de semaine, on avait une fermeture, la fermeture du pont de Québec. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Ça a créé des bouchons.
Excuse-moi, je ne l'ai pas juste vu passer, j'étais dedans. J'allais voir des amis à Rivière-du-Loup, puis je passais par Québec à ce moment-là, puis je me suis tapé pas loin d'une heure et demie d'attente là, pour passer le
Ouais.
pont.
Ça a créé des bouchons
Écoute.
ça a créé des bouchons de 8 à 10 km. Puis moi, j'aime beaucoup les scénarios catastrophes. C'est des scénarios qui arrivent pratiquement pas, mais en même temps, ça sert à se dire, est-ce qu'on est paré à un scénario de ce type-là? Advenant le cas d'une fermeture du pont Pierre-Laporte, Nick, le plan B, c'est le pont La Violette à Trois-Rivières, parce que les camions peuvent pas passer sur le pont de Québec. C'est interdit en raison de la hauteur. Donc, le plan B, c'est le pont La Violette à Trois-Rivières. C'est un détour d'à peu près 200 km. Puis, tu as des politiciens qui se présentent devant moi et qui disent à chaque fois, ah, nous, on est contre le troisième lien, qui, dans ma tête, va être le futur deuxième lien. On est contre le troisième lien, on est contre le troisième lien. Et quand je leur demande, le plan B, si le pont Laporte est fermé pendant 2 ou 3 semaines, c'est quoi? Ils sont même pas au courant de ça. Ce sont de purs idiots qui se prononcent sur des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne vivent pas, puis ils se réfèrent constamment à des experts. Et quand tu regardes le type d'experts auxquels ces gens-là se réfèrent, on se rend compte que c'est des activistes, des militants pro-transport en commun. Donc, c'est clair que leurs travaux seront biaisés par rapport aux résultats qu'ils vont te donner. C'est clair que ça va être teinté un peu par leurs idées. Puis, je le dis, je suis pro-transport en commun, mais quand je vois des autobus électriques à 1,8 million, Nick, quand je vois des abris d'autobus tempérés à 2 points, t'es peu, ouais, 1,3 million, pardon, des abris d'autobus tempérés, puis je compare ça avec une bâtisse d'1,3 million au commercial, je me dis, il y a de l'argent qui se perd quelque part. Parce qu'en plus, la bâtisse au commercial, tu calcules le terrain qui vient avec. Là, toi, tu regardes l'abri d'autobus tempéré, tu dis quoi? 1,3 million, puis en plus, le terrain nous appartenait. C'est oui, transport en commun, mais pas à n'importe quel prix. Il y a une différence entre le collectivo, là, puis notre transport en commun à nous. Les gens qui prennent le transport en commun sont très, très, très gâtés, là, puis surtout avec l'argent qu'on leur donne. Mais à un moment donné, ça fera, puis on se rend compte que les politiciens, eux autres, ils ont leurs propres idées, même si eux adhèrent même pas à leurs propres idées, puis ils veulent te mettre dans l'autobus alors qu'eux autres vont passer à côté de toi en voiture.
En limousine dans le cas de certains ministres, mais effectivement, moi, ce que je pourrais dire qui est un petit peu, sans être trop partisan, je dirais que je trouve ça un peu décevant de voir des gens qui se disent souverainistes, qui veulent faire un pays, mais qui ont la difficulté à construire un pont, ou même à voir qu'un pont, ça peut avoir une certaine utilité, même dans un avenir proche ou à long terme. Puis il me semble qu'il y a une notion qui est un petit peu appliquée à, comment dire, à deux choses différentes, parce que c'est le fameux concept d'utilisateur-payeur. Parce que quand on nous dit, par exemple, quelqu'un qui prend sa voiture, ben, il y a une notion d'utilisateur-payeur sur le point de vue de pollueur. Donc, on va te faire payer avec des taxes, que ce soit sur la taxe sur, entre autres, la taxe provinciale sur l'essence, ou il y a, par exemple, le marché de carbone. Donc, on va toujours appliquer des mesures supplémentaires sur l'automobiliste en se disant, ben, écoute, il faut que tu fasses ta part pour payer pour les infrastructures routières, mais aussi pour payer pour tous les inconvénients qui viennent avec l'environnement dû à l'utilisation du véhicule. Mais pour le transport en commun, effectivement, ce qu'on remarque, c'est autant que c'est une réalité à Québec qu'à Montréal, il y a une baisse d'achalandage à certains niveaux. Bon, à Montréal, ils ont mis le transport en commun gratuit pour les aînés de 65 ans et plus. Ils ont remarqué une hausse de l'achalandage pour eux, mais il y a une baisse d'achalandage généralisée quand même. Et à la fin de la journée, il faut se dire, s'il y a moins d'utilisateurs, ben c'est pas aux autres de payer pour. Faut qu'ils réajustent le système en conséquence. Oui, à la limite, il faudrait augmenter les tarifs. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez considéré. Le monde nous dit, ben là, si on augmente les tarifs, les gens pourront plus prendre le transport en commun. Ouais, ben éventuellement, si tu augmentes juste les taxes sur les gens qui prennent leur voiture, c'est eux autres qui vont être pognés à devoir prendre l'autobus. Puis qui sait, peut-être qu'il n'y aura pas d'autobus disponible dans leur région pour X et non, pour toutes les raisons du monde, parce qu'on sait très bien qu'en dehors des grands centres au Québec, le transport interrégional, il est pas extrême, il est pas, comment dire, il est pas, il est loin d'être parfait, disons-le. Donc, c'est de voir à quel point on a cette manie à presser le citron de Paul pour habiller Jean. Dans un sens, c'est de faire en sorte qu'on va déshabiller Jean pour habiller Paul. Et ben, on le voit avec l'automobiliste pour le transport en commun, mais on le voit également à plusieurs niveaux aussi dans toute la manière qu'on va gérer les infrastructures et les finances publiques au Québec. Mais c'est décevant de voir qu'il y a des gens qui s'opposent encore à des projets d'infrastructures qui sont aussi basiques que la construction d'un pont, quand on sait très bien que ça peut amener des solutions supplémentaires, ça peut réduire des coûts, ça peut réduire le trafic, ça peut faire en sorte que comme on le voit par exemple avec les différents camions qui doivent carrément se taper le pont La Violette, parce que si, par exemple, le pont La Porte, Pierre La Porte est fermé, ben, ils doivent faire le tour. Ben, ces gens-là, ils ont besoin d'une alternative. Puis autrement, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, leur coût d'exploitation augmente, les coûts de transport augmentent. Et ça a un impact sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Mais ça, malheureusement, les politiciens en parlent trop peu souvent. Ça serait le fun que ce réveil-là de leur part cette année, ou du moins, je dirais cette année plutôt que tard. Mais il n'en reste que. On voit très bien à quel point, présentement, la logique, c'est, ben écoute, on va tout faire sous le couvert de l'équité, on va augmenter les tarifs, on va augmenter les taxes, on va taxer davantage les immatriculations, mais il n'y a jamais un effort pour réduire les dépenses, il n'y a jamais un effort pour en faire le ménage, il n'y a jamais non plus un effort pour aller regarder les effectifs puis tous les programmes qui se rattachent tant aux différents ministères, comme c'est le cas, par exemple, pour le ministère du Transport, que tous les autres programmes pour les autres ministères affiliés. Il n'y a jamais ça qui est fait nulle part. Et je pense que les contribuables mériteraient ça au minimum. Qu'il y ait une tentative de la part d'un seul échelon à faire du ménage. Je m'attends presque à ce que Mme Guilbeault le fasse. Sa volonté à centraliser les services de transport en commun, tous les projets de transport en commun, d'après moi, il y a du bon là-dedans. Parce qu'effectivement, ça ne peut pas être laissé qu'entre les mains de certains idéologues dans les villes qui prétendent avoir la solution miracle pour gérer leurs propres infrastructures quand ils ont été élus avec un mandat de maire ou une mairesse qui était peut-être pas le plus majoritaire au monde, et en plus qui était un mandat qui disait simplement, écoute, occupe-toi de nos poubelles, occupe-toi de la voirie, occupe-toi de la police ou de la sécurité publique en général, puis le reste, là, laisse ça au privé, laisse ça à ceux qui sont vraiment prêts à faire avancer des projets au Québec plutôt que de mettre des bâtons dans les roues à des contribuables ou des entrepreneurs, comme on le voit trop souvent.
C'est de la folie. Ça veut gérer le climat. C'est pas capable de gérer les vidanges. C'est assez particulier, mais juste pour boucler la boucle dans le dossier du RTC, c'est que les audits de performance sont pas encore sortis, mais t'as Marchand qui décide de charger 10 $ de plus par immatriculation. C'est assez particulier. Il n'y a aucune entreprise privée qui accepterait ce type de choses-là à l'interne. Ah ben, moi, j'ai un restaurant, je constate qu'il marche pas tant, je sais pas trop comment ça, fait que je vais charger 10 $ de plus de l'assiette à mes clients. Ouais, c'est ce que je vais faire. C'est n'importe quoi.
Qu'est-ce qui va arriver? C'est que le client va aller dans le restaurant à côté. Au moins, dans le privé, il existe ce choix-là. Malheureusement, dans ce cas-ci, tu ne peux pas prendre un transport en commun alternatif. Puis, de toute manière, si tu es un automobiliste, ben, tu vas payer la taxe pareil. Donc, c'est effectivement, on est pris entre l'arbre
et l'écorce. Mais c'est juste pour la ville. C'est juste pour la ville de Québec. Donc, Ancienne Lorette n'est pas attachée à la ville de Québec. Donc, salutations aux gens de l'Ancienne Lorette qui embarquent sur nos routes puis qui prennent le transport en commun aussi. Salutations aux gens de Saint-Augustin. Les autres maires autour veulent être réélus. Puis ils sont un peu enclins à embarquer dans ce type d'augmentation-là. Mais le maire Marchand sait que c'est le maire d'un seul mandat. Puis il essaie de faire passer ses idées avant de quitter. Espérons juste qu'il y aura des gens pour le freiner. J'ai lu la chronique de Michel Girard ce matin. C'est catastrophique ce qui arrive avec nos entreprises québécoises.
Absolument. On remarque une augmentation assez importante du nombre de faillites. Je veux dire, si on compare ça entre avril 2023, ben mars 2023 et mars 2024, là, donc au courant de l'année fiscale qui vient d'avoir lieu, je veux dire, c'est phénoménal. 58% des faillites de PME au Canada ont lieu au Québec. Je veux dire, on a deux fois plus de faillites de PME au Québec qu'en Ontario présentement. Ça vous donne une idée à quel point on a un gros problème au niveau là, des entreprises qui ont de la difficulté avec leur solvabilité. Je veux dire, j'ai pas le nombre exact d'entreprises qui ont fait faillite, mais mettons qu'on y va avec le comparatif suivant. le PIB de l'Ontario, c'est deux fois celui du Québec. C'est à peu près 15,9 millions contre 9 millions d'habitants, donc il y a pas loin de 6 millions de personnes de plus, presque 7 millions de personnes de plus. Et pourtant, on a deux fois plus de faillites que notre principal voisin, que le fameux partenaire économique avec lequel M. Legault aime souvent nous comparer. Et en plus de ça, comme c'était pas assez, puis on répétera jamais assez, on est plus taxé qu'eux autres, on est plus imposé qu'eux autres. Et là, on se demande, mais quand est-ce que ça va prendre fin? Parce qu'on se souvient qu'en janvier, on avait eu un paquet de cris d'alarme de la part de PME au Québec qui disait on sera pas en mesure de rembourser notre prêt ou les prêts gouvernementaux qui étaient liés à la COVID, ou est-ce qu'il y avait les entreprises qui avaient été forcées à la fermeture pour les confinements, étaient obligées d'aller chercher des prêts qui étaient finalement remboursables 2 à 3 ans plus tard. Et c'est finalement, ce réveil-là est arrivé de manière assez brutale parce que plusieurs entreprises espéraient même à ce qu'il y ait un report des paiements de prêts, à ce qu'il y ait une ouverture de la part du gouvernement gouvernement, ou même mieux, est-ce qu'il y a des allègements fiscaux qui soient offerts par le gouvernement de la CAQ pour permettre à ces entreprises-là de peut-être être en mesure de faire face à l'augmentation de leurs charges, comme on le voit par exemple, l'augmentation des taux d'intérêt, les problèmes de main-d'œuvre et tout ça. Donc, tout ça affecte de manière assez importante les PME comme telles. Mais au lieu de tout ça, ce qu'on va se rappeler assez longtemps, c'est que le 1er avril dernier, les tarifs d'Hydro-Québec ont augmenté. Pour les particuliers, tarif D, c'est 3 % que ça. Donc, on se souvient, c'est plafonné au Québec pour tous les particuliers. Pour les entreprises, disons, dans le domaine des grandes entreprises, donc celles qui sont plus de ce type Rio Tinto, Anka et tout ça, leur tarif à eux autres a augmenté de 3,3 %. Mais les PME, eux autres, c'est le citron qui se fait presser le plus, c'est 5,1 % d'augmentation de tarifs. Si on prend juste ça de même, t'sais, on savait que les entreprises faisaient déjà face à des problématiques assez importantes depuis la COVID, mais même avant. Et là, on a augmenté les tarifs d'hydro plus rapidement que pour les PME que pour n'importe quel autre groupe. Ça représente 253 millions de dollars de plus qu'on va chercher dans les poches des PME qui en arrachent présentement. Et après ça, on se surprend plus tard à remarquer que finalement, non seulement on a la difficulté à faire comme François Legault l'espère, rattraper l'écart avec l'Ontario, mais en plus, notre écart avec eux augmente en termes de faillite de nos PME, qui, je rappelle, c'est le nerf, c'est ce qui fait vivre réellement le Québec, tant qu'à moi. Puis je pense qu'on pourrait regarder vraiment les chiffres, puis on va aller plus dans les détails.
Les PME, c'est le poumon du Québec, là.
Absolument. Et on les a abandonnés comme ça se peut pas. Je me souviendrai toujours, en 2022, François Legault avait promis de plafonner les tarifs d'hydro pour les PME dans le cadre des élections. Puis finalement, ils ont décidé de le faire juste pour les particuliers. Ils ont abandonné les PME à un moment qui était assez névralgique. Puis ils ont vu une augmentation de leurs tarifs augmenter de 6,8 %. C'est une des plus importantes hausses depuis, je pense, les 40 dernières années. Donc, ça vous démontre à quel point il n'y a vraiment eu aucune tentative pour les aider. Et là, bon, c'est sûr qu'on remarque à quel point la situation économique en ce moment est au ralenti. Donc, on a l'impression, avec raison, qu'il va y avoir probablement plus de faillites à court, moyen, long terme. Mais ce qui me dérange le plus, c'est à quel point il y a un manque d'ouverture de la part du gouvernement pour faire quoi que ce soit pour les aider. On a constamment un discours de la part du ministre de l'Énergie, ou plutôt le ministre de l'Économie et de la Sobriété énergétique, M. Fitzgibbon, qui nous rappelle qu'il faut augmenter les tarifs, qu'on va devoir, contrôler ou plutôt limiter, en fait, les blocs d'énergie qui sont donnés aux prochaines entreprises. Donc, non seulement on remarque une augmentation des faillites, mais on risque de remarquer aussi tranquillement un ralentissement au niveau des nouvelles entreprises qui peuvent s'installer au Québec à cause de ces complications-là, tant au niveau du cadre fiscal et réglementaire que même pour la question énergétique. Donc, on espère qu'il va y avoir un réveil de la part de François Legault. J'espère que ces chiffres-là vont le réveiller, parce qu'on se souvient qu'il a été quasiment élu sur la prémisse de maternelle 4 ans, la loi 21, puis l'écart avec l'Ontario. Et bon, la loi 21, c'est faite. La maternelle 4 ans, c'est mort. Et là, on espère que l'écart avec l'Ontario, ça fait partie encore de ses objectifs. Puis si c'est le cas, qu'il s'attaque au cadre fiscal, qui essaie de leur offrir, comme il l'avait promis, un plafonnement de leur tarif d'hydro, qui permette, par exemple, d'étaler les paiements des dettes de la COVID, parce qu'on s'entend que, d'une manière ou d'une autre, ces entreprises-là n'ont pas choisi à s'endetter. Ils ont été forcés à le faire. Et ça fait partie des choses qui les suivent encore aujourd'hui. Donc, il y a aucune mesure qui a été mise de l'avant par le gouvernement de François Legault à ce jour pour aider les PME de manière concrète. Il en a fait un peu pour les contribuables l'année dernière avec une baisse d'impôt de 1 %, mais on s'attend à ce qu'il en fasse un peu plus pour les PME cette année. Sinon, on doit s'attendre à voir ce chiffre-là, ce nombre de faillites assez exponentiel. Si on regarde les chiffres, j'avais ça sous les yeux il y a quelques instants, je pense que le nombre d'entreprises insolvables en ce moment, c'est 3 305. En Ontario, c'est 1 600. Donc, pour une population qui est quasiment deux fois la nôtre, pour un PIB qui est quasiment deux fois le nôtre, on a deux fois moins de faillites. Je pense que ça vaut la peine de se poser des questions.
Exact. Puis, comme petit rappel, François Legault s'est fait élire en disant avoir un parti qui était de centre droit économiquement et ont toujours géré depuis 2018 centre gauche. Puis, des fois, c'était gauche extrême au niveau de l'économie. Les faillites ont augmenté de 70 % depuis qu'il est au pouvoir pour un gouvernement de centre droit. Je pense qu'on peut dire qu'il a raté sa cible. Pas pire. Hey, je te souhaite de passer un beau séjour à Calgary. J'espère que tu vas prendre un peu de temps pour toi là-bas. C'est le fun de visiter cette ville-là. Elle est magnifique. En passant, je sais pas quel genre de température que tu as aujourd'hui. Je vois que tu es habillé peut-être un peu plus en long. Là. Nous autres à Québec, on est comme à Cancun. Il fait 12-13 degrés à peu près. Là. Mais qu'est-ce qu'il fait à Calgary? Là?
Ah, écoute, moi, je suis embarqué dans l'avion, il faisait 20 degrés à Montréal hier, puis je descends de l'avion, il fait 7, puis il pleut. C'était l'enfer. J'étais comme, puis c'était la température qui faisait quasiment tout le long du week-end quand j'étais à Rivière-du-Loup. Fait que j'étais comme, hey, ça me suit partout, cette température-là. Mais ça va se réchauffer tranquillement. Mais dites-vous qu'en Alberta, je pense environ une semaine et demie, 2 semaines, il y a une grosse tempête de neige. Donc, eux autres, leur hiver dure un peu plus longtemps. Mais bon, on va faire avec, puis moi, j'en profite, inquiétez-vous pas. Puis j'espère vous revenir en bonne forme pour une chronique la semaine prochaine.
Parfait. Amuse-toi, on se parle mercredi prochain, puis demain j'attends ton communiqué là, pour donner les informations pour les gagnants des Teddy Awards, c'est ça?
Oui, exactement, les prix Teddy.
All right. Pour vous rejoindre, contribuable.ca, Nick?
Oui, au pluriel.ca, contribuable.